Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Savez-vous quel jour on est aujourd'hui ?
On est le 1er décembre, je crois.
Attention, échauffez vos voix. It's time !
It's time for Christmas, it's you !
Oh yeah !
Merci Esther pour cette démonstration.
De rien, de rien.
On est le 1er décembre et comme premier cadeau, parce que je suis une meuf hyper sympa, généreuse et drôle, et je dirais même adorable, petit clin d'œil à l'Afghan. Je vous ai trouvé le chiffre de ce que gagne Mariah Carey chaque année avec sa petite chanson de Noël. Petit promo autour de la table.
Au moins, je sais pas moi, 5 millions.
10 euros.
10 euros.
Elle gagne à peu près 2 millions de dollars chaque année.
J'étais trop loin. Voilà.
Vous en faites ce que vous voulez. En attendant, It's time of 6h avant minuit, votre émission d'information locale. Tout de suite, le flash info du lutin chef Héloïse.
Déjeuner à l'Élysée pour Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, le président ukrainien a été reçu par Emmanuel Macron pour faire le point sur la situation dans son pays. Étaient présents et présentes plusieurs leaders européens, mais aussi Steve Witkoff, négociateur américain. Sans surprise, aucun plan finalisé n'a été annoncé sur la question des territoires cédés ou non à la Russie pour stopper la guerre. Pas d'avancée notable non plus concernant les actifs gelés russes. Emmanuel Macron assure qu'une solution sera trouvée avant Noël sur ce point. Donald Trump continue de se dire optimiste sur un accord de paix. De son côté, l'Europe insiste toujours sur l'importance de son implication dans les négociations. Trump qui fait planer son ombre sur l'élection présidentielle au Honduras. Les 7 millions d'électeurs et électrices de ce pays d'Amérique latine étaient appelés dans les urnes hier. Un peu plus d'un tiers des bulletins ont pour l'instant été dépouillés. Et déjà, un favori semble se profiler avec environ 40% des voix pour le moment. Nasri Asfoura, candidat conservateur soutenu par Donald Trump, serait en tête. Des accusations de fraude ont déjà été formulées par certains candidats. Mais les observateurs envoyés par l'Organisation des États américains parlent d'une atmosphère démocratique pendant la journée de vote. De nombreux services publics et commerces resteront fermés dans les prochains jours par peur d'éventuelles manifestations. Lui, par contre, il n'est pas prêt de se représenter à une élection. En tout cas, on ne risque pas de voir son nom sur une liste aux prochaines municipales. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, est condamné à 4 ans de prison ferme pour chantage à la sextape. Une peine s'accompagnant de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. L'édile de 53 ans doit donc immédiatement quitter son poste. L'ex-républicain est reconnu coupable d'avoir tendu un piège à un rival politique, son ancien premier adjoint, Gilles Artigue. L'homme avait été filmé par une caméra cachée en compagnie d'un prostitué avant d'être sommé de faire profil bas. Gaël Perdriau se dit innocent et a annoncé qu'il ferait appel. Pas de festival de BD à Angoulême l'année prochaine. La société organisatrice a annoncé l'annulation de l'édition 2026 via un communiqué publié par son cabinet d'avocats. 9e Art Plus pointe la responsabilité des pouvoirs publics. Selon la structure, les financeurs publics, je cite, n'ont cessé de s'immiscer dans la gestion de cet événement avec la volonté manifeste d'en évincer l'organisateur historique. Depuis quelques semaines, les annonces de boycott se multipliaient de la part d'auteurs et autrices et de maisons d'édition. Le monde de la BD reproche à l'événement international son opacité financière, ses dérives mercantiles et sa mauvaise gestion managériale et artistique. Qui dit 1er décembre dit Journée mondiale de lutte contre le sida. Et c'est aussi aujourd'hui que Santé publique France publie son rapport annuel sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles. L'occasion de faire le point sur l'épidémie, ses nouveaux risques et les alertes lancées par les associations. Romane nous dresse un état des lieux sur la situation.
Le tableau de 2024 est contrasté selon le rapport de Santé publique France. D'un côté, les progrès sont notables. Le dépistage augmente avec plus de 8,5 millions de tests réalisés cette année. Et un cinquième de ces tests ont été réalisés sans avance de frais. Le nombre de découvertes de séropositivité, lui, se stabilise avec 5100 cas recensés. La zone d'ombre, ce sont ces 43% d'infections VIH encore détectées trop tard, ce qui ne permet pas un accès optimal au traitement. On estime aussi que près de 9700 personnes vivraient avec le VIH sans le savoir. Les IST bactériennes, chlamydia, syphilis et gonococcie poursuivent leur hausse, surtout chez les jeunes. Et malgré les 8,5 millions de tests en laboratoire, les plus petites structures, comme les centres de dépistage communautaires, manquent de moyens. À peine 50 000 tests ont été réalisés cette année. Pourtant, ce sont ces structures qui sont capables d'aller à la rencontre des populations les plus vulnérables, donc les personnes migrantes, les jeunes précaires, les personnes en situation de rupture avec le système de santé.
D'où vient cette baisse de budget, Roman ?
Elle s'explique par les politiques d'austérité et la diminution des aides publiques. Résultat, les finances baissent, certaines structures locales ferment, l'éducation à la sexualité est sacrifiée et les innovations en prévention sont menacées. Même la PrEP, le traitement pris en prévention, pourtant efficace à 98%, peine à se diffuser. Son accès reste limité et la version injectable disponible depuis 3 ans aux États-Unis n'est toujours pas proposée en France. Pour les associations, cela a un impact immédiat. Moins de moyens pour dépister, prévenir et accompagner les personnes malades. Le Conseil national du SIDA parle d'une remobilisation urgente, car 40 ans de progrès sont aujourd'hui fragilisés en France comme à l'international.
Et la France n'avait pas fait de promesse de dons lors du premier sommet des fonds mondiaux, c'est bien ça ?
Non, et ce geste a été très critiqué par les ONG. Les États-Unis et d'autres grands donateurs ont réduit aussi leurs contributions, ce qui menace directement les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme dans les pays les plus pauvres. Un désengagement global que résume sur France Info Fabrice Pilorger de l'association Aide. Je cite « Tout se passe comme si les décideurs, les autorités, pensaient que comme on fait d'énormes progrès, on ne peut pas baisser la garde. Mais pour faire les derniers mètres et pour vraiment atteindre la fin de l'épidémie VIH, au contraire, il faut redoubler d'efforts. Et là, on voit l'argent disparaître partout. »
La campagne de l'organisation Aide est donc portée sur les questions budgétaires. Qu'est-ce qu'il en est de SIDAction ?
Cette année, c'est SIDAction Alpha Safe, une campagne basée sur un sondage d'OpinionWay. Elle révèle une percée alarmante des discours masculinistes auprès des hommes en France, tout âge confondu, sur les réseaux sociaux. 66% des jeunes hommes connaissent au moins un influenceur masculiniste. Ces discours pèsent directement sur la santé sexuelle. 40% pensent qu'être un homme, c'est prendre des risques, y compris sexuels. 31% se sentent plus puissants sans préservatif. Et un jeune sur 6 voit le préservatif comme un signe de faiblesse. Plus grave encore, un homme sur 10 dit comprendre le stealthing, c'est-à-dire le retrait non consenti du préservatif. Une dérive fragilisant la prévention et le consentement.
Merci Romane, et n'oubliez pas, des numéros existent pour répondre aux questions et vous accompagner. SIDA Info Service 0800 840 800, c'est 24 heures sur 24 pour toutes les questions juridiques et sociales qui ont un lien avec le SIDA ou le VIH. Et pour toute autre question, il existe le fil santé jeune 0800 235 236 ou bien la ligne Azure 0810 20 30 40 et ça c'est de 8h à 23h. En ce moment, c'est la 35e édition des Journées Nationales Prison. L'événement a lieu chaque mois de novembre partout en France. Objectif, sensibiliser le grand public aux enjeux carcéraux et pénaux. En Bretagne, le collectif Prison de Rennes organise témoignages, débats et rencontres. À la bibliothèque de l'Université Rennes 2, étudiantes et étudiants, retraités et passionnés ont répondu présentes et présents. Cette année, les conversations tournent autour d'un sujet brûlant, la surpopulation carcérale. Romane s'est rendue sur place.
Dans le hall, le tableau d'inscription est plein à craquer. Assis sur des canapés, Marie, Nina et Alan attendent leur tour. Dans quelques minutes, ils rencontreront leur livre vivant. Le principe, un face-à-face de 20 minutes pour s'exprimer et en apprendre plus sur le système pénal et pénitentiaire.
C'est vrai que c'est une partie de la population qui est un peu oubliée. Et donc ces journées-là sont vraiment importantes pour se rendre compte que, bah, en fait, ils ont quand même besoin de nous, même s'ils ont fait quelque chose qui sort de la loi.
Le problème n'est pas tant la surpopulation, mais la surincarcération.
Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre manière de pouvoir sanctionner ? Je pense que la solution d'enfermer tout le monde à tout bouchon n'est pas forcément la meilleure solution, sachant qu'en plus, ça permet des fois pas du tout une remise en question de son comportement, de ses actes qui pouvaient être problématiques. Et il y a des personnes qui ressortent plus abîmées, plus violentes des fois aussi.
À Rennes, c'est le collectif Prison qui pilote les Journées Nationales Prison. Parmi les associations présentes, Bouge ta prison. Son objectif, lutter contre la stigmatisation du milieu carcéral. Mona et Marine en sont les vice-présidentes.
Le faire dans la BU, c'est bien parce que je pense qu'il y a plein d'étudiants qui ne connaissent pas forcément ces conditions.
La population n'est pas assez sensibilisée au milieu carcéral parce que c'est vrai que les premières fois quand on va s'intéresser au milieu carcéral, on va dire ouais, c'est c'est le Club Med là-bas. Ils ont le droit au téléphone, ils ont le droit à la télé. Et je pense que justement, c'est bien de se renseigner, même d'avoir juste un regard, même si on est d'un avis différent.
Gaëlle, Laurent, Catherine, au total, 7 intervenants et intervenantes animent ces séances d'échange. Ils et elles sont des bénévoles, des anciens et des anciennes détenus, des professionnels. Margot Sébière, coordinatrice du collectif Prison de Rennes.
On parle de la surpopulation carcérale parce que c'est un vrai sujet. Actuellement, d'un point de vue politique, on est vraiment dans des situations de la détention qui est très complexe. On est en moyenne à 3 voire 4 personnes dans une cellule de 9 mètres carrés. Et on parle de la condition humaine, en fait, tout simplement. Donc nous, notre sujet et notre message, c'est de ne pas être... On n'est pas contre la prison. On est contre la manière de penser la peine et peut-être qu'il y a des alternatives à tout ça.
Le collectif Prison représente une quinzaine d'associations à Rennes. Elles interviennent sur tous les fronts, maintien du lien familial, soutien matériel, accompagnement en démarche, accès à la religion ou à la formation.
Toutes les informations et les coordonnées des associations sont à retrouver sur le site du collectif Prison de Rennes. Du monde dans les rues des grandes villes d'Ille-et-Vilaine. Demain, les syndicats appellent à manifester contre la réforme des retraites. Des rassemblements sont prévus à Rennes, Fougères et Saint-Malo. Force ouvrière, la CGT, FSU, Solidaires, la Confédération paysanne et plusieurs syndicats étudiants demandent l'abrogation de la réforme ainsi que l'abandon du projet de budget 2026. À Rennes, le rendez-vous est fixé à 13h, place de la République. On ne sait pas si la réforme des retraites tombera, mais une autre chute a fait grand bruit à Rennes. Celle d'un arbre de plus de 5 mètres dans le quartier Kennedy, avenue de Guyenne. Le feuillu s'est déraciné hier matin. Deux voitures stationnées à proximité ont été endommagées. La route a été fermée jusqu'à la découpe de l'arbre aujourd'hui. Les raisons de cet incident ne sont pour l'instant pas identifiées.
C'est la fin de ce flash. Merci Héloïse. Et à très très bientôt. It's interview time avec le lutin grognon, aka Estelle.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Aujourd'hui, on vous plonge dans l'univers d'un spectacle unique où souvenirs d'adolescence, icônes de la pop culture et questionnements sur la masculinité se rencontrent. Lucas Raon nous ouvre les portes de sa chambre d'ado, peuplée de David Bowie, Claude François ou encore Joe Fraser, pour raconter ce qui fait grandir, réfléchir et rêver. Bonjour Lucas, habillé avec une magnifique chemise bleue et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Eh ben merci, bonjour.
Bonjour. Alors, pour commencer, on va parler de votre spectacle qui s'intitule « Le père combat choisi ». Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi parle ce spectacle ?
Et ben dans ce spectacle, on suit un adolescent dans sa chambre qui a entre 11 et 15 ans. On le suit grandir, en fait, au fil du spectacle. Et tous les soirs, dans sa chambre, il va convoquer différentes figures de stars, différentes icônes de la pop culture qui sont toutes masculines et qui vont arriver, débarquer dans sa chambre et il va essayer de régler ses comptes pour tenter de comprendre son identité, comment il se construit, cet adolescent qui se construit avec une identité queer et comment il deal avec tout un héritage pop culture masculin qui lui vient à la fois des médias et à la fois d'un univers familial et donc essayer de comprendre comment se transmet la masculinité à la fois de père en fils et à la fois à travers les grandes icônes de la pop culture qui nous inondent constamment et nous bercent aussi depuis qu'on est tout petit. Voilà.
En effet, ce spectacle est surtout autour d'une transmission entre père et fils, mais il part d'un souvenir assez précis, Noël 2009, pas encore 2029, le DVD de David Bowie, le costume de Claude François, et vous racontez que c'est à ce moment-là que tout a commencé. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui en repensant à ce moment déclencheur ?
J'ai pas mal de tendresse pour cette époque-là où j'étais tout petit. Oui, quand j'étais vraiment petit, j'étais assez fan de Claude François et très fan où j'avais des reproductions taille enfant de ses costumes, je connaissais les chorégraphies, les choses comme ça. Et oui, c'était un moment de tendresse, d'enfance qui était assez joyeux. Et bien qu'il soit complètement déconnecté de ma génération, quand même, et un peu plus tard, à l'adolescence, a débarqué dans ma vie David Bowie, qui là a été complètement une révolution et qui a donné une autre image de ce vers quoi je voulais un peu plus tendre, si je puis dire. Et du coup, le spectacle a pour point de départ le match de ces deux personnalités complètement différentes qui racontent aussi des parcours très différents et les évolutions ce que j'ai appris en fait au fil du temps sur ces figures-là aussi et la désillusion que peuvent nous donner ces icônes-là, notamment au sujet de Claude François avec toutes les dérives et tout ce que j'ai pu apprendre de toxicité, de voilà.
On va pas dénigrer son image, mais...
Non, mais voilà, c'est un fait. et du coup, voilà, c'était de pouvoir prendre un peu du recul, en même temps poser un regard un peu tendre sur cet enfant qui ouvre un placard de sa tante ou de sa mère ou de sa grand-mère pour prendre une paire de talons et une robe à paillettes et se prendre pour la plus grande des stars et comprendre qu'en fait, cette image-là n'est pas du tout aussi celle qui collait à la réalité. Donc de pouvoir... créer cette espèce de dichotomie sur les idoles, qu'est-ce qu'on en fait, comment elles nous ont aidé à grandir, comment elles nous ont construit et comment on arrive aussi à en faire le deuil, à s'en séparer aujourd'hui pour tracer un peu d'autres chemins et donc de dire que bah, voilà, notre identité est construite un peu comme ça de tous ces petits morceaux d'idoles qu'on garde, qu'on a eues, celles qu'on redécouvre pour créer un peu voilà, un personnage, une identité sous forme un peu monstrueuse faite de plein de petits morceaux quoi.
Et vous avez réussi à vous défaire de David Bowie parce que j'ai l'impression que c'est un peu votre idole number one. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu votre relation envers lui ?
Oula, ma relation, elle est très, très distancielle.
Oui.
Mais oui, non, moi, j'adore sa musique, j'adore ce qu'il a pu faire aussi bien au cinéma, sur le côté performatif. Moi, ça reste quelqu'un que j'admire beaucoup. Je ne sais pas si c'est mon idole number one. À l'heure actuelle encore, mais en tout cas voilà, ça reste quelqu'un d'assez important dans ma vie, dans mon parcours. Et puis moi, j'ai beaucoup été inspiré aussi de sa pratique de la transformation, c'est de son identité visuelle. De voilà, je suis devenu après performer drag queen, donc c'est aussi quelque chose qui a forcément influencé la création de mon personnage de drag et donc voilà, qui reste quelqu'un d'important qui a eu une grande influence voilà dans ma vie, je pense.
Oui, et là, vous parlez de drag, donc on va un peu revenir sur la scénographie du spectacle. Donc, il y a une part importante de drag dans votre spectacle, et comment celle-ci se construit et se déroule, en fait ?
Alors, dans le spectacle, il y a une part importante qui n'est pas uniquement du drag, mais qui est la position des médias. C'est-à-dire que étant donné qu'on parle culture pop, il était impensable pour moi de ne pas parler de l'influence médiatique et de comment on a toutes les informations, comment on y accède, surtout que moi j'ai grandi à la campagne, donc voilà, c'était un peu c'était les seuls vecteurs qu'on avait, à part quelques magazines, quelques fans d'eux ou des choses comme ça, mais bon, qui ne parlaient pas des idoles que moi j'aimais à mon époque. Et donc pour prendre en charge tout cet aspect médiatique, j'ai voulu concevoir des personnages de speakerine.
C'est quoi le speakerine ?
Alors les speakerines, c'était des présentatrices de télévision dans les années 60-70, qui étaient toujours des femmes qui, par exemple, pouvaient annoncer le programme de la soirée à la télévision. Voilà, c'était des femmes qui étaient très belles, en tailleur. Il y a eu des grandes speakerines. Il me semble que Dorothée a été speakerine à ses débuts, par exemple. Et du coup, j'ai voulu faire appel à cette figure de la speakerine un peu mythique de la féminité, qui contrebalance complètement avec la masculinité dont on parle au plateau. Et pour ça, j'ai utilisé mes outils de drag. Et donc, on a créé quatre personnages de speakerine qui viennent rythmer le spectacle et qui apparaissent en vidéo.
Ok. Qui sont ?
Les personnages ?
Oui.
Dans les noms, nous avons Patty du Boulevard, qui est une speakerine en hommage à Jean-Luc Delarue. Nous avons... Ah, j'ai un trou. Nous avons Aladdin Fall, donc en hommage à David Bowie pour Aladdin Sane. Nous avons Lauren Bacall, donc là qui porte le même nom qu'une grande actrice hollywoodienne, qui était également un des personnages qu'interprétait dans un de ses clips David Bowie. Okay. Donc en fait, tout est tissé un peu en petites références comme ça, personnelles, que moi je me suis amusé à concevoir, qui sont pas totalement parfois lisibles, mais qui n'étaient pas dans ce but-là. Mais voilà, c'est un peu les speakerines. On a aussi un sosie de David Bowie qui intervient au début. Et voilà, on tisse à travers le spectacle, ces figures-là qui surgissent dans la chambre du fils comme un écran de télévision qui s'allume et qui viennent annoncer les différents scoops qui viennent de sortir sur les stars, donc qui font évoluer le parcours du fils, mais aussi les différentes morts, de se dire, bon bah voilà, on annonce la mort de Claude François, par exemple, et donc qui crée une rupture dans son parcours de construction d'identité en disant, en fait, j'aime quelqu'un qui n'existe plus depuis les années 70. Pourquoi ? Alors que je suis en 2010. Et donc voilà, le drag apparaît comme ça. Il n'y a pas de drag qui apparaît directement au plateau. J'avais envie vraiment que ce soit pris en charge par la vidéo et pas par moi au plateau.
C'est vrai, il y a plusieurs formes de... Oula, j'ai oublié mon mot. Enfin, la scénographie, elle est composée de différentes formes scéniques. Comme vous l'avez dit, là, il y a du coup le format audiovisuel qui s'intègre. Ouais. Mais il y a aussi du coup votre prestation sur la scène. Et la scène est composée, enfin, elle est assez épurée. Ouais. C'est simplement la chambre qui va forcément évoluer au fur et à mesure des épisodes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces épisodes dans la scène ? Comment ils se déroulent ?
Ouais, alors sur la scénographie, oui, c'est quelque chose d'assez épuré où ça se passe dans une chambre mais un peu fantasmée, une chambre un peu imaginaire qui n'est pas réaliste, en trois pôles. Le pôle effectivement audiovisuel, où on utilise aussi beaucoup le son, la musique, les choses comme ça. Le pôle de la transformation, donc tout ce qui va être vestiaire, changement de costume, archives familiales avec de la photo aussi, des choses comme ça. Et un pôle un peu plus performance, moment où d'un coup on s'empare et la star apparaît sur scène. Et donc le spectacle est divisé en plusieurs épisodes qui sont chronologiques dans l'âge du fils. Le personnage principal s'appelle le fils, il n'est pas, volontairement pas nommé. Et donc chaque épisode est construit quasiment de la même façon, c'est-à-dire que le fils découvre une icône et tente de la convoquer au plateau. Et chaque épisode a un mode d'incarnation différent pour faire apparaître la star sur scène. Donc on a par exemple, je disais tout à l'heure, un sosie de David Bowie en vidéo. On a Joe Frazier qui arrive, donc qui est un grand boxeur américain, qui arrive par la performance. Là, c'est vraiment moi qui l'incarne. Enfin, en tout cas, qui incarne un spectateur de l'un de ses matchs. Les idoles apparaissent aussi en son. Claude François intervient en son par des trucages de voix et par des choses comme ça, comme une présence qui vient hanter et un peu cauchemardesque au fur et à mesure du spectacle. Donc chaque épisode a un peu un outil qui lui est dédié pour faire apparaître une de ces icônes-là.
Et du coup, le rôle du fils pendant tous ces épisodes est de bousculer la masculinité, la transmission de la masculinité entre le père et le fils. Et pourquoi vous avez voulu explorer ce sujet-là ?
Alors, je ne sais pas si c'est bousculer, le terme le plus approprié, parce que ce fils a quand même entre 11 et 15 ans, donc c'est un peu jeune pour être déjà militant, purement, mais en tout cas qui vient poser des questions, qui vient essayer de se questionner déjà lui-même par rapport à son identité. Et c'est des thèmes avec lesquels moi j'ai grandi. L'histoire est forcément, le spectacle est un peu inspiré de mon parcours, de ma vie. Après, c'est une autofiction, donc on a quand même beaucoup de parcours, de choses qui sont dites, qui sont complètement inventées, ou alors transformé de la vie de ses propres stars que moi je me suis approprié. Je voulais parler de ça parce que c'est la manière dont moi je me suis aussi construit. Je me suis construit dans un paysage médiatique et familial majoritairement masculin, où on n'écoutait à la maison quasiment que des chanteurs, où les icônes dont on parlait, les stars qu'on allait voir en concert, étaient principalement des hommes. Chez Bruce Springsteen, chez mon père, on avait Serge Lama chez ma grand-mère, on avait Robbie Williams chez ma mère, Alain Souchon, enfin voilà, Bernard Lavillier, toutes des figures masculines quasiment. Et moi, j'ai grandi en découvrant mon identité queer aussi. Et du coup, c'était de me dire, ah, qu'est-ce que je garde de tout ce parcours-là, qui sont encore pour la plupart des chanteurs que j'ai plaisir à écouter, que j'aime, qui font partie de mon héritage familial. Mais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui de mon identité ?
Et qu'est-ce que ça représente de votre identité, alors ?
Ça, c'est un peu flou. Je ne sais pas encore si le spectacle a répondu à toutes les questions. En tout cas, je ne l'ai pas fait pour faire une thérapie. Mais je ne sais pas. ça représente, c'est ce que je dis, quelque chose de mon héritage familial, quelque chose qui me tient à cœur, qui me fait plaisir à écouter. Et puis quand je retourne en famille, on a aussi toujours plaisir à écouter ces choses-là. Mais moi, j'ai eu après, je me suis construit aussi après avec mes propres icônes, mes propres idoles, qui sont venues compléter en fait les morceaux manquants que j'avais déjà acquis dans l'enfance, dans l'adolescence. Okay. Un petit peu. Donc je ne les oublie pas, je ne les renie pas totalement, mais
juste, on laisse place à d'autres personnes. Aussi, vous parlez d'un cri contre le temps et contre la mort. Est-ce que vous voyez ce spectacle comme une forme du coup d'hommage envers ces idoles qui vous ont construit ?
Un petit peu, quand je parle de cri contre le temps et contre la mort, c'est parce que la plupart des icônes que je convoque au plateau sont décédées ou sont en... Non, sont en passe de le devenir, mais bon, je ne leur souhaite pas.
Sont en fin de vie.
Sont âgés, en tout cas, ne représentent pas ma génération. En tout cas, ça ne représente pas ma... Voilà, c'est pas... Ça ne m'a... Voilà, Claude François, Bruce Springsteen, David Bowie, c'est pas quelque chose avec... Enfin, c'est pas des icônes avec lesquelles on grandit quand on a 7-8 ans dans les années 2000. Donc, c'est un peu ça. C'était aussi un peu une envie de se dire, bah zut, tous mes héros d'enfance sont en train de mourir. Qui est-ce qui me reste ? Il faut vite que j'aille leur parler ou que je les convoque pour avant qu'ils ne soient plus là. Et donc, à la fois pour certains, leur rendre hommage, mais aussi pour régler des comptes, pour dire un tout petit peu, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont un peu cafouillé dans votre parcours où ce n'est pas tout à fait clean et moi, est-ce que je l'accepte ? Est-ce que je ne l'accepte pas ? Est-ce que pour cette raison, on doit un peu brûler ces idoles et ces icônes ? Ou est-ce qu'on fait avec ? Donc c'était un peu voilà essayer de
se questionner
entre l'artiste, de les aider et... de les appeler comme ça avant qu'il soit trop tard, même si pour la plupart ils sont déjà morts, mais du coup de les
et avoir une dernière rencontre avec
c'est ça.
Eux
de dire merci, au revoir ou merci, on continue.
Et qu'est-ce que vous aimeriez que ce public retienne de votre spectacle?
Oula, je ne sais pas si c'est à moi que ça appartient d'avoir ce regard-là, mais qu'est-ce qu'on pourrait retenir du spectacle ? Un petit peu tout, le spectacle convoque différentes choses, tendresse, humour, c'est un spectacle qui jongle aussi avec des vraiment entre l'humour et le côté un peu tragique, et on passe sans cesse de l'un à l'autre, quitte souvent à en faire trop, et donc de jongler vraiment dans l'urgence de cette adolescence-là. Avec tous ces revirements. Donc, oui, qu'est-ce qu'il pourrait en retenir là juste de se questionner, en fait, aussi sur son rapport aux idoles, sur qu'est-ce que nous a transmis notre famille, avec qui on a grandi, et par rapport à qui on est aujourd'hui. Un peu, voilà, d'essayer de vouloir se communiquer un peu autour de cette question et pouvoir échanger à travers tout ça, peut-être.
Donc vous, auditeurs, si vous avez envie de vous questionner sur l'héritage de la pop culture, votre relation avec vos idoles, n'hésitez pas à aller voir Le Père, combat choisi, demain, mardi 2 septembre 2025, au Tambour de Rennes 2. Merci Lucas.
Merci beaucoup.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
On passe à la chronique et ça fait super longtemps qu'on n'a pas entendu la chronique d'Estelle. Ça t'embouche un coin, donc c'est le moment. À toi Estelle.
Ici les femmes parlent et les machos se taisent. Aujourd'hui, on s'offre un petit moment de délice. Comment Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a cloué le bec à un député sexiste. On rembobine. Mercredi 12 novembre, nos chers députés sont en plein examen du budget de la sécurité sociale. Ce jour-là, ambiance réforme des retraites. Donc déjà, forcément, ça chauffe un peu. En pleine discussion, la députée écologiste Sandrine Rousseau décrit la réforme comme une violence sociale.
Si vous financez le décalage de la retraite par ces réformes-là, vous faites payer par tous les plus vulnérables de la société, par tous les plus fragiles de la société, un simple décalage de 3 mois.
Après sa prise de parole, le député Jérôme Verny de l'Union républicaine démocratique prend le micro. Écoutons ce qu'il a tant à nous dire. Petit warning, ça va vous casser les oreilles.
Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole ? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro ?
Ça n'est pas acceptable.
Explosion dans l'hémicycle. Pas une seconde ne passe que Yaël Braun-Pivet recadre le monsieur. Rappel à l'ordre clair, net, sans bavure. Pour cause, des propos sexistes visant Sandrine Rousseau.
Acceptable, je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement
est terminée. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte.
La suite du tableau, applaudissements à gauche et au centre. Sandrine Rousseau, assise sur son banc, est silencieuse. Elle exquit un sourire à Yaël Braun-Pivet. Soyons honnêtes, est-ce qu'on est vraiment choqués? Elle est leur cauchemar éveillé, femme, féministe, de gauche. Le combo parfait qui déclenche automatiquement la sirène panique chez les conservateurs. Depuis son perchoir, Yaël Braun-Pivet estime que les propos de Jérôme Verny sont une attaque sexiste. Et ce genre de comportement, c'est fini.
Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini ! C'est fini !
Jérôme Verny, un peu sonné, crie à l'injustice et part chouiner auprès du journal du dimanche. Je cite « Aujourd'hui, toute remarque devient immédiatement suspecte de sexisme. C'est regrettable, car on ne peut plus débattre sereinement sans risquer d'être caricaturé. » Pêcheur. Bon, il en a quand même profité pour dénoncer une dérive woke dont les Français n'en peuvent plus. Petite question, est-ce qu'autour de cette table, on n'en peut plus de la dérive woke ? Compliqué. C'était pas trop dérangeant.
Ça va, on le vit plutôt bien ici.
Voilà. Et autre question, qui n'en peut plus des bullshit de la droite? Voilà, la réponse elle est présente. Cette fermeté, elle tombe dans un contexte où Sandrine Rousseau se fait souvent cibler. Yaël Braun-Pivet rappelle que ce n'est pas un cas isolé.
Et je vous indique d'ailleurs que sur deux précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, deux rappels à l'ordre également.
Parce que oui, l'extrême droite n'est pas à son coup d'essai. Présidé pendant des années par une femme, le RN a tenté de faire croire qu'il était un parti féministe. Une bien bonne blague de leur part qui n'a absolument rien à carrer des droits des femmes. 10 jours plus tôt, le 30 octobre, les députés RN Laurent Jacobelli et Kevin Pfeiffer avaient attaqué Sandrine Rousseau en disant « Prends un cachet, tu vas craquer, elle est complètement siphonnée !» Les propos se noient dans la cacophonie, Christophe Blanchet, au perchoir à ce moment-là, ne réagit même pas. C'est quelques jours plus tard, la présidente de l'Assemblée nationale qui rectifie le tir avec un rappel au règlement. Encore une fois, ce sont les femmes qui recadrent.
Merci beaucoup Estelle, avec une pointe d'accent marseillais. Tu n'aurais pas été à Marseille ce week-end. Est-ce que tu peux regarder sur le répondeur, Pouchia, s'il te plaît?
Bien sûr. Et le répondeur.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllabe, la radio sauvage.
Aïe, je vais vous emboucaner.
Nada.
Que pouic.
Rien du tout, vide. Je vous redonne le numéro 02 30 96 25 35. Laissez-nous un message avec vos plus beaux accents, hein, qu'ils soient marseillais ou bretons ou savoyards, peu importe. Allez-y, 02 30 96 25 35. Merci Timothée pour la technique et à demain dans 6 heures avant minuit.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.